Ouais, salut Daniel, salut à tous. Bon là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maintenant, le PS emboîte le pas au FN pour choisir ses sujets d'indignation et de lutte dans l'affaire Mitterrand. C'est gerbant. Si on fait un petit bilan de le mois écoulé de ce que le PS, ce sur quoi le PS est vent debout, la défense du PMU, la loi Hadopi, les bouquins de Frédéric Mitterrand d'il y a 15 ans, mais arrêtez quoi, arrêtez. Hein. Dans le même mois, on renvoie des demandeurs d'asile dans un pays en guerre où ils vont se faire massacrer. On met des flics à la retraite dans la cour des collèges de France et de Navarre. Il y a quand même un petit peu plus grave. Et je parle même pas du commerce avec les dictatures du monde entier, maintenant le Kazakhstan, qui continue de plus belle, mais tout ça, bah le PS, il a rien à dire. Hein. C'est passé dans les mœurs, c'est pas grave. Par contre, dès qu'il y a un truc qui fait frissonner et qui a des chances de passer dans Paris Match, là on a cours, c'est... Et puis derrière le FN, sans problème, dans la foulée, 2 heures après, à vomir. Salut.
Bonjour. Ce vendredi matin, l'invité de Nicolas Demorand, c'était Alain Finkielkraut. Il réagissait à toute la mousse qui est faite actuellement autour de Roman Polanski et Frédéric Mitterrand. Il dénonçait, entre autres, l'amalgame qui est fait entre l'homosexualité puis la pédophilie. Sur ce point, ouais, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais oui, il est balèze, ce mec. C'est quand il dénonce l'amalgame, alors que c'est lui-même un spécialiste de l'amalgame. Rien que pendant l'émission, bah, il en a fait plusieurs. J'en cite un, là, que j'ai retenu. Il a mis dans le même panier la foule lyncheuse des internautes et les pirates téléchargeurs. Franchement, je vois pas le rapport. Mais son amalgame de fond, qui est son fond de commerce, il n'y a pas eu droit aujourd'hui, hein. Mais celui qu'il fait traditionnellement, c'est celui qu'il fait entre la critique de la politique d'Israël et l'antisémitisme. Celui-là, c'est un incontournable, hein, de la pensée Finkielkrautienne.
Oui, bonjour, c'est Greg de Martigues. Alors sur tout ce qui se passe là chez France Télécom et ailleurs, je voulais dire que ce phénomène de management par mépris, on le retrouve dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les structures, associations, entreprises, collectivités. Et que plus qu'un management par mépris, c'est l'oubli de l'homme avant tout. On oublie l'impact d'une décision, d'une relation, d'un rapport à l'autre. C'est un peu comme l'expérience de Milgram, où sous l'autorité scientifique, des hommes sont capables d'infliger des décharges électriques de centaines de volts, qui sont des décharges mortelles, à d'autres hommes, en toute innocence. Est-ce la fin de l'humanité ? Je pense qu'on peut se poser la question.
Merci pour cette émission sur France Télécom, et c'est pour réagir à chaud, où j'entends parler du management par la terreur. C'est vrai que par la terreur me heurte un petit peu, il y a d'autres époques et d'autres occasions pour évoquer la terreur. Par contre, le management par le chaos, où les tâches sont suffisamment floues pour glisser sur les personnels, et les personnels concernés sans doute... c'est les techniques des entreprises privées. Les personnes concernées ne peuvent pas être motivées par le salaire, sans doute parce qu'ils ont une certaine ancienneté. Donc ils atteignent le fameux niveau d'incompétence. Ils passent du niveau de compétence au niveau d'incompétence, et il faut se débarrasser de ce personnel-là. En tout cas, courage. Courage au personnel concerné. Et aussi, encore un dernier mot sur la division des salariés par l'individualisation des salaires. C'est toutes les techniques employées par l'entreprise privée. Et comment réagir, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre aussi, c'est qu'à un moment donné, on perd le pouvoir de dire non, tout simplement, quelles que soient les conséquences. C'est Didier de l'Isère.
Combien sommes-nous ici et maintenant en France à dire « j'ai mal à mon travail » ? Il y a les salariés de France Télécom et puis tous les autres du privé, ceux trop isolés pour dire leur souffrance au travail. Comment en sommes-nous venus là ? Hier, nous étions heureux d'aller travailler. Et aujourd'hui, la grande machine du libéralisme à broyer l'humain nous détruit. Qu'est-ce que la valeur humaine du travail ? C'est la capacité de chacun à donner le meilleur de soi au travail lorsque l'homme y est considéré comme la plus grande richesse. Le monde financier se cassera aussi la gueule s'il n'admet pas ça. Je suis en arrêt maladie et sous antidépresseur depuis 4 mois dans le secteur privé parce que j'ai mal à mon travail, celui que j'aimais avant, où j'étais entendu.
Bonjour Daniel Mermet. J'avais l'intention d'attendre pour donner mon avis sur France Télécom, mais en vous entendant hier supposer que dans les jours prochains, il y aurait aussi une situation identique chez les enseignants et les postiers, là j'ai craqué. Ce que je vais dire va sûrement choquer, mais ces suicides me laissent indifférente. Par contre, je suis très touchée par tous ces paysans qui se battent pour leur boulot sans argent à la fin du mois, touchée par ces chômeurs en fin de droit, ces jeunes femmes qui élèvent seules leurs enfants obligées d'aller à la banque alimentaire pour manger. Tous ceux-là n'ont pas le temps d'avoir des états d'âme, car pour eux, à la fin du mois, la paye ne tombe pas automatiquement. Ils se battent. Quant aux employés de France Télécom, perturbés par des mutations qui interviennent tous les 3 ans, je vais vous dire ceci. J'ai fait 30 déménagements en 30 ans, pas en France, mais à l'étranger, dans des coins très hostiles. 52 degrés dans le désert irakien, ça marque. Je vais bientôt avoir 70 ans, mais j'ai dans le cœur un enthousiasme qu'ils n'ont pas, car ils se complaisent dans une forme d'égoïsme, seulement concentrés sur eux-mêmes, butant sur la moindre difficulté. Je voudrais terminer en vous disant que dans mon petit village de l'Isère, il y a un fort contingent d'employés de France Télécom, heureux, me venant de familles où le mot « travail » avait encore un sens. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et merci pour vos émissions. Voilà, je suis Valérie du Val d'Oise et je travaille dans une entreprise privée qui fait du transport de colis, une entreprise américaine. J'ai écouté une émission sur France Télécom là hier. Eh bien, nous aussi, on est notés, hein, on est notés par nos supérieurs, comme à l'école, hein, on a des petites notes chaque année. Et puis, pour répondre à la cadre qui parlait hier sur oh, le client, il est chiant, le client, il nous demande toujours plus de choses. Bah oui, nous aussi, chez nous, le client, il nous demande toujours plus de choses. C'est pas pour autant qu'il faut mettre la pression sur les salariés qui travaillent. Et puis nous aussi, on a un centre d'appel. Moi, je suis au service après-vente. Puis au service après-vente, on nous demande aussi de plus en plus de choses, par exemple comme prendre certains appels du centre d'appel, puisqu'ils ont délocalisé une partie du centre d'appel au Maroc et que visiblement, c'est pas très satisfaisant. Il y a des débordements d'appels, donc il faut nous aussi, au SAV, en plus de nos gestions de dossiers SAV, il faut prendre des appels du centre d'appel, et puis le centre d'appel, lui, il va prendre une partie de notre travail. Enfin, il faut devenir polyvalent en plus d'être productif. Hein. Alors, on n'en finit plus, hein, on n'en finit plus, et bientôt, on va même traiter des litiges sur les marchandises perdues. Pourquoi pas, bientôt, on en arrivera peut-être à faire le ménage en plus, hein, dans nos heures de travail. Non, vraiment, ce qu'il faut, c'est arriver à s'organiser, hein, collectivement dans les entreprises, et puis ne pas rester dans son coin, parler avec les collègues, et puis s'organiser pour lutter un peu, hein, dans les entreprises, parce que faut pas rester avec des problèmes de stress au travail, c'est très très mauvais. Donc surtout, faut parler et pas rester isolé. Voilà, merci à tous, au revoir.
Merci à toutes et à tous pour ces messages laissés sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Mais je dois vous le dire, l'heure que nous allons passer ensemble va être absolument décevante. Si décevante que je suis pas sûr que vous allez rester avec nous. Bon oui, il sera pas question dans cette heure de la vie sexuelle du ministre ou de celle de Polanski. Il sera pas question de l'âge précis des garçons, ni même du tourisme sexuel. D'ailleurs, à propos de tourisme sexuel, si vous n'avez pas les moyens d'aller au-delà des mers, vous pouvez tout à fait vous contenter du Bois de Boulogne ou de la Porte Dorée au Bois de Boulogne. Vous avez de la prostitution qui vient d'Amérique latine, donc voilà, ça, c'est exotique. La Porte Dorée, c'est plus asiatique, et voilà, ça vous coûte le prix d'un ticket de métro, évidemment, c'est beaucoup moins pittoresque. Assez curieux, tous ces intellectuels qui sortent là en ce moment, qui sont montés à nouveau sur la scène, qu'ils ne quittent jamais très longtemps d'ailleurs, c'est qu'on les voit jamais finalement à Gandrange, ou auprès des Goodyear, ou là dans avec les télécoms. C'est des sujets, des causes qui ne les intéressent visiblement pas. Eh bien, à chacun ses intellos. Aujourd'hui, on continue avec France Télécom, Orange stressé, et on va passer cette heure avec Gilda Renoux. J'avoue que j'ai découvert ce chercheur il y a très peu de temps. C'est l'occasion de ce travail sur cette émission, qui est anthropologue et qui depuis 10 ans en anthropologue qu'il est, il étudie ce qui se passe à France Télécom et à La Poste, et il a des choses à nous dire. Et puis on retrouvera Frédéric Lordon, qui nous avait parlé, lui, de France Télécom il y a déjà quelques semaines, et on va revenir sur son analyse et sur sa façon de voir ce qui se passe dans ce tram, dans cette grande maison qu'est France Télécom. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est la troisième émission sur ce sujet. On va essayer de creuser et d'aller plus loin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, salut à tous les AMG. Pour vous rappeler le repère de Courpierre dans le Puy-de-Dôme, le deuxième vendredi du mois, donc le 9 octobre à 18h30, au bar Pizzeria chez Zico, avenue de la Gare à Courpierre. C'est en face d'un quincaillerie Borel. Me dites pas que Courpierre s'est paumé, on va avoir le jeu des 1000 euros la semaine prochaine. Alors voyez, hein. Pour leur père, on parlera de liberté. Et comme c'est un vaste sujet, entre la liberté de manifester contre le nucléaire quand on a pris un coup à Colmar le 3 octobre, la liberté de l'ouvrir quand Sarkozy est en visite, etc., on se limitera à discuter de la liberté de la presse avec une journaliste locale. Allez, à bientôt, ménagez-vous, et la bise à Monique qui va être déçue de ne pas entendre sa sœur dans le poste.
Salut Daniel et toute l'équipe, message de Françoise à tous les AMG des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, vendredi 9 octobre, réunion mensuelle du repère d'Aner, avec un sujet piquant autour du documentaire de Perrine Bertrand et Yann Grill, L'Ortie, fait de la résistance, fait et eux, ou comment une mauvaise graine, une mauvaise herbe devient un symbole de liberté. Tout un programme. On se retrouve donc comme d'habitude autour d'un apéro casse-croûte vers 20h, projection 21h, suivi du débat avec les réalisateurs. Venez nombreux.
Bonjour à vous, voilà, pour aborder la quatrième année du repère 90, je vous propose de se retrouver au bar L'Oasis, place de la République au centre-ville à Belfort, dans le territoire. Et c'est tous les deuxièmes samedis du mois, à partir de 14h, donc les discussions peuvent y être diverses et variées. Et chacun peut amener son petit grain de sel dans la société où nous vivons actuellement. Bonne journée à vous.
Presqu'île Toulouse, ex-Motorola, toujours en grève contre 1066 licenciements. Cinquième semaine de grève. Nous nous battons pour une prime de licenciement décente afin de faire face à la période de chômage qui nous attend. Nous nous battons contre le mépris du patron. En effet, ces dernières années, pour préserver l'emploi, nous avons tout accepté. La compression d'effectifs, le gel des salaires, le chômage partiel et au bout de compte, dehors. Il n'y a plus de travail pour vous. Cinquième semaine de grève. La direction ne lâche pas grand-chose et nous envoie les CRS dès lors qu'une action est mise en place. Soit un barrage à l'entrée de l'usine, ou bien retenir le patron dans un bureau pour exiger de véritables négociations. On est repoussé, chassé à grand renfort de boucliers. Quelques coups de matraque sont distribués. Tant de violence devant notre détermination est démesurée. Les CRS sont là tous les jours. Nous ne sommes pas des bandits. Nous voulons garder notre dignité tout simplement. Malgré 1066 licenciements, la presse nationale nous ignore totalement. Personne ne parle de nous. Il semblerait que notre directeur, M. Denis Blanc, fasse barrage. C'est scandaleux. Nous appelons à un rassemblement de soutien pour Fresquel. Rejoignez-nous ce vendredi 9 octobre à partir de 17h devant l'usine, avenue Général Eisenhower à Toulouse, métro Passau-Cambeau. Concert de soutien, toute la nuit, gratuit. Venez nombreux soutenir la lutte des Fresquel contre le fléau social des licenciements. D'autres entreprises seront présentes. Merci de passer mon message, la lutte continue. Merci Daniel Mermet et toute son équipe.
C'était juste pour annoncer que samedi 10 octobre à Paris, au départ du métro Jourdain, à 14h, il y a une manifestation qui s'appelle l'Existence, marche revendicative, donc qui porte les revendications relatives à la problématique transsexuelle, transgenre et intersexuée. Et si c'était possible de passer là, ça serait vraiment bien. Nous avons besoin de soutien. C'est un sujet qui est assez peu connu sur ses revendications, beaucoup plus sous un angle glauque très souvent, c'est Cosette Auré, etc. Et évidemment que c'est des choses qui existent, mais on ne peut pas réduire cette condition humaine et ce parcours à des situations difficiles. C'est comme si on parlait des femmes en parlant que de prostitution. C'est tout à fait la même chose. Quand on est précarisé, on peut aussi se retrouver dans les mêmes situations. Donc l'idée, c'est d'être nombreuses et nombreux à cette manifestation pour faire en sorte que la voix populaire, qui porte aussi cette idée d'émancipation et de liberté, puisse se faire entendre, notamment ce jour-là. Merci, amitié militante.
France Télécom, Orange, bonjour.
France Télécom, une entreprise aux 100 000 fonctionnaires. Beaucoup trop au goût de la direction.
France 2, 1er septembre 2004.
Et comme il est impossible de licencier un fonctionnaire, France Télécom ferait donc tout pour qu'il parte de lui-même.
Vous appelez pour supprimer un de vos contrats ?
Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, à peu près, il y a une moyenne dans notre bâtiment d'une évacuation par les pompiers tous les 15 jours. De malaise sur les plateaux.
Vous appelez pour disposer d'une assistance Orange.
La direction a bien créé une cellule d'écoute pour les salariés en détresse.
France 24.
Mais les syndicats lui reprochent de ne pas s'attaquer à la racine du mal.
10 septembre 2009.
Ses méthodes de management.
Ce qu'il faut voir, c'est que les dirigeants de France Télécom ont poussé extrêmement loin le management par le mépris.
Vous appelez pour disposer d'une assistance Orange. Merci de raccrocher. À très bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Antoine Chao et Pascal Pascariello. Orange, stressé.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est le responsable qui donnait les informations, quoi, qui disait que justement Lionel changeait complètement d'équipe, en fait. Donc, et puis après, Lionel a voulu prendre la parole, et puis il a fait son geste malheureux, quoi. Il se donnait vraiment le coup de couteau. Moi, je suis très mal, quoi. Je le vis très mal, tout au moins. Je le vis très mal. Son geste, en fait, disons que ça s'est passé, et disons que maintenant, c'est pas trop son geste, en fait, c'est l'après, en fait. C'est toujours l'après qui nous fait peur. Aller retravailler après, en fait. Toujours dans l'ambiance, dans une ambiance pareille, pesante, etc. Ça vient petit à petit, quoi. Mais, et là, ça, en fait, ça devenait insupportable. Dans l'équipe, ça devenait insupportable. Parce qu'en fait, ça se dégrade au fur et à mesure, puis on ne s'en rend pas bien compte, en fait. Après, on essaie de se libérer, en fait, quand on sort du travail, quoi. C'est pareil, j'essaie de pas trop en parler à la maison pour pas perturber l'environnement familial, pour justement... Bon, là, c'est sûr que... Là, ils l'ont vu, en fait, ils l'ont vu. Ça, c'est certain que ça se voit plus maintenant à la maison. Mais disons que, justement, pour que ça se passe bien, moi, je veux pas, justement, perturber ma famille avec ces problèmes-là. La plupart du temps, quand on prend des congés, on se ressource quand même pas mal, et puis, en fait, on se dit, on va re-rentrer, et puis ça va aller, quoi. Ça va pas aller mieux, mais disons que on va essayer de tenir jusqu'aux prochaines vacances, en fait. C'est plus ça, quoi. On essaie de se gérer individuellement, en fait, puisque on peut pas en parler à personne. Et puis, jusqu'ici, c'est pareil, le médecin du travail, avoir des visites, ça faisait 4 ans que j'en avais pas une, par exemple. Donc ça fait long. Ça fait long. On se sent mal, quoi. On se sent très mal, même.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est beaucoup moins intéressant que... la vie sexuelle d'un ministre ou celle d'un grand metteur en scène, c'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup moins intéressant. 1000 chômeurs de plus par jour. 1000 chômeurs de plus par jour. Bon, on préfère s'intéresser à la vie sexuelle du ministre ou du metteur en scène. Et un plan social par jour, 1000 chômeurs par jour, 500 000 emplois détruits en un an. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument rejeter, mais c'est là, et c'est de plus en plus là. Et c'est là, dans l'esprit, dans la tête de tous les salariés et de tous les non-salariés, de ceux qui ne sont pas encore, je pense, aux jeunes de ce pays. Et c'est ça qui hante aussi les 100 000 de France Télécom, de Orange. Il y a la baisse du pouvoir d'achat, il y a le sentiment d'impuissance face aux effets sociaux de la crise financière. Il y a aussi et surtout peut-être la disparition du sentiment d'espérance, c'est-à-dire l'idée d'un progrès possible, d'une amélioration, d'un horizon, d'une aurore un jour. Et ça, ça a totalement disparu, un évanouissement. Et tout cela renvoie à chacun à prendre douloureusement conscience de toutes les humiliations subies, de toutes les résignations, de tout ce qu'il a fallu encaisser pendant des années en pure perte pour en arriver là, c'est-à-dire nulle part ou à la case de départ. Voilà ce que des milliers, des millions de Françaises et de Français sont en train de comprendre à travers l'histoire des gens de France Télécom et d'Orange et de La Poste et de beaucoup d'autres grandes entreprises et de petites entreprises aussi, y compris des paysans, y compris partout. Des gens qui ont laissé des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Je tiens d'ailleurs à m'excuser d'avance auprès de ceux que nous ne pourrons pas diffuser. Aujourd'hui, on va retrouver donc deux chercheurs, Gilda Renoux, anthropologue, qui va creuser dans cette question, essayer d'aller plus loin, essayer d'apporter un fond, essayer surtout de nous faire comprendre pourquoi si peu de résistance, pourquoi si peu de contestation, pourquoi si peu de révolte. On trouvera sans doute la réponse dans ce style, dans ce type même de management qui vise à couper les liens, qui vise à désaffilier, à couper les fils entre les salariés d'une entreprise, alors qu'évidemment les syndicats essayent toujours de recoller, de refaire du lien, etc. Mais ce management aura été le plus fort. Et ça, c'est un symbole aussi de notre époque, que cette désaffiliation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'il faut lutter? Ben, on s'aperçoit qu'on est tout seul. Alors, il reste cette forme de protestation, de contestation ultime, qui est de retourner l'arme contre soi-même au lieu de la tourner comme elle doit l'être contre l'adversaire, contre l'ennemi. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Orange stressé.
Vous appelez pour...
On est tous des gros tas de viande inutile. Tous on ressemble à un élevage de poulets aux hormones. On est bien partis pour tous finir chômeurs et nos enfants ils seront comme nous, au plus gros. Le travail c'est en train de devenir un luxe réservé aux pays qui sont pas prêts d'avoir le RMI. Sauf que pour eux, on remplace leur salaire par un paquet de chips. Ben ouais, y a plus une thune nulle part à cause du prix des 4x4. Mentale qui est en train de niquer toute la planète. Et nous on nous fait croire que pour vivre pénard y'a qu'à buter toutes les vaches folles et surtout les islamistes.
Donc je suis Gilda Renoux et je suis
chercheur en sciences sociales. Voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans sur les personnels de la Poste et de France Télécom, ce qu'on appelait auparavant les PTT.
Voilà, Gilda Renaud, j'avoue que je l'ai découvert par hasard sur la revue du MOS qui est en ligne. Il est l'auteur, j'évoquais hier, d'un article que j'ai trouvé, que nous avons trouvé passionnant, intitulé « Les laboratoires de l'antipathie » à propos des suicides à France Télécom. Et évidemment, il y avait ce mot d'antipathie qui nous a attiré. Qu'est-ce que c'est l'antipathie? Pourquoi l'antipathie? Il va s'expliquer un peu plus longuement. Il va développer ce thème. C'est un chercheur, c'est pas un homme de radio avec une belle voix bien posée. Et on l'a joint à Strasbourg dans des conditions de communication pas forcément formidables au point de vue technique, mais ça n'en est pas moins passionnant.
France Télécom est allé très très loin dans l'adoption et la mise en œuvre de méthodes de management absolument aberrante d'un point de vue anthropologique, parce que moi je me situe d'un point de vue anthropologique. Anthropologique, c'est-à-dire sur la question de la conception de l'homme qu'on a et de la vérité de la manière dont fonctionnent les sociétés humaines et le management tel qu'il se développe aujourd'hui à France Télécom, mais dans la plupart des grandes entreprises, est une aberration, si on veut, intellectuelle, et qui ne peut que produire à terme ce qu'on voit à France Télécom, c'est-à-dire certes des suicides, ce que la partie la plus visible, mais aussi des dépressions, de la violence au travail. Il y a des cas de menaces de mort, il y a des bagarres au travail, on en parle beaucoup moins, c'est très fréquent, y compris des supérieurs qui sont menacés par les subordonnés, qui sont contraints au quotidien de harceler, donc c'est une situation absolument terrible. Et puis voilà, tout ce qui peut aller avec, des formes d'alcoolisme, etc. Donc à France Télécom, moi je connais la Poste, et la situation n'est pas meilleure, et surtout avec donc la privatisation de la Poste qui pointe assez sérieusement le bout de son nez en ce moment, on va aboutir, hélas, très probablement, au même résultat dans quelques mois à la Poste. Donc je suis assez pessimiste et pas du tout surpris. Alors, pourquoi laboratoire de l'antipathie? Pour moi, c'est une façon de nommer le processus de technique managériale qui conduit à désaffilier les personnes. Et la désaffiliation, pour moi, c'est ce qui produit la fragilité psychique et, par conséquent, entre autres résultats, les possibilités de suicide et de dépression. Et alors, l'affiliation, là, c'est une question anthropologique, c'est le fait qu'on ait besoin, en tant qu'humain, d'être connecté aux autres humains. C'est-à-dire dans les activités de travail, on est tous les jours, tous ceux qui travaillent en équipe le savent, on est dans un collectif, on s'entend, on ne s'entend pas, on se chamaille, etc. Mais il y a un collectif relativement stable, avec une certaine camaraderie, etc., et qui produit un sentiment d'appartenance. Il y a un deuxième niveau dans l'affiliation qu'offre le travail, donc dans n'importe quelle situation, c'est ce qu'on appelait le métier. Le métier, c'est l'ensemble des savoir-faire acquis et qui sont inscrits dans notre corps et qui font qu'on sait faire des choses. Et ça donne le sentiment d'exister puisqu'on réactive, on améliore nos gestes quotidiennement, nos manières de penser et on a l'impression de réussir ce qu'on fait et on n'a pas seulement l'impression, on le fait. Donc c'est une manière d'être tout à fait important, le métier. Et la troisième dimension de l'affiliation, c'est le rythme, les temporalités, c'est-à-dire le temps de travail est rythmé par des pauses, par des rythmes de la semaine, etc., des choses comme ça, qui vont aussi être cassées par les innovations managériales pour casser les repères, en fait. C'est parce que c'est de ça dont il est question, casser les repères. Ensuite, dans l'affiliation, il y a le langage. Le langage, c'est la matière que les gens habitent psychiquement. Donc, les mots que l'on emploie sont très importants pour avoir une capacité de repérage et de vie, tout simplement. Le langage a été travaillé très stratégiquement par les techniques managériales à deux niveaux. Le langage d'appartenance a été modifié, c'est-à-dire qu'on a modifié en permanence les organigrammes. Les noms des collectifs de travail, etc., ont été modifiés, il y a eu des tas de sigles, etc. Les gens ne savaient plus quels mots employer pour dire à quelle équipe ils appartenaient, le travail qu'ils faisaient, ça changeait en permanence. Plusieurs fois par an. Donc c'était désorientant et c'était désorientant à dessein, puisque ça a été fait volontairement pour que les gens perdent cette stabilité qui leur était offerte par l'affiliation, par le langage, un langage maîtrisé. Autre point, c'est le langage même, le langage personnel. On a tous eu au téléphone des téléopérateurs, donc à France Télécom il y en a beaucoup, qui au lieu d'avoir une conversation avec nous, lisent un script anonyme sur un écran. Et la conversation est complètement anonymée, aseptisée. Ce n'est plus une conversation humaine, c'est une conversation avec une machine, une sorte d'humanoïde qui, entre l'humain et la personne. Et ça crée évidemment des troubles psychiques, on le sait, douloureux chez les personnes qui font ça pendant des années. Outre les cadences qui sont imposées, etc. Mais le simple dispositif de perte de la parole, de perte d'une parole subjective, est absolument destructeur.
France Télécom, Orange, bonjour. Vous appelez pour disposer d'une assistance Orange. Merci de raccrocher. À très bientôt.
Encore deux points d'affiliation pour qu'on comprenne les modalités de perte d'affiliation à France Télécom et plus généralement dans les grandes entreprises qui pratiquent ce management scientifique, hein, parce que c'est quelque chose qui est pensé de façon scientifique, mais hélas par des universitaires, des chercheurs qui vendent ça ensuite dans les grandes entreprises comme les cabinets de consultants à Tech Irma, etc. Donc je reviens sur la mémoire collective. Elle est cassée également par les dispositifs de désaffiliation. En cassant les collectifs de travail, les équipes qui fonctionnaient, on casse la mémoire. Les gens n'ont plus le sentiment de la temporalité de ce qui se passait dans les années précédentes, etc. Les bons moments, les passés, parce que la mémoire passe par la socialisation de la mémoire, par la parole qui est... Et lorsque les personnels sont soumis à ces mobilités forcées, changent de collègues 3, 4, 5 fois par an, leur mémoire de leur travail est complètement désorientée. Et même les lieux, alors un dernier point, c'est les lieux. Lorsqu'on travaille dans un bureau, n'importe où, chez soi ou au bureau, on a besoin de singularisation du lieu de travail. Et donc, peut-être mettre une photo de son enfant ou un petit objet qu'on aime bien, etc. Le nouveau management de travail interdit la singularisation et la familiarisation de la personne à son lieu de travail. Pour la transformer, encore une fois, finalement, en machine qu'on déplace, qui est parfaitement substituable et qui, si elle ne marche pas suffisamment bien, qu'on peut envoyer à la déchetterie.
Voilà, dit avec les mots de l'anthropologue, ce que les agents de France Télécom nous disent dans le répondeur de là-bas si j'y suis, ou à travers les conversations qu'on peut avoir avec eux, mais encore une fois, je le répète, c'est pas seulement les gens de France Télécom qui parlent ainsi aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres professionnels ou de gens qui ont été justement éjectés et définitivement, enfin, ou j'espère pour eux temporairement désaffiliés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qui est décrit là, c'était moderniser, il faut moderniser l'entreprise, c'est-à-dire que tout ce processus de casser des liens, de couper les fils entre les gens, etc., c'était moderniser. Puis il y a l'éloge aussi de bouger, il faut bouger, time to move, il faut pas rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot, etc. Et ça aussi, c'est des procédés présentés comme modernes, jeunes, dans le coup et inévitables aussi, qui ont conduit cette solitude d'un chacun, des petits séparés dans les grands ensembles, et d'un chacun au fond de son alvéole, paumé tout seul comme un con au fond de son alvéole. Gilles Darrenaud.
Le management, en fait, tel qu'il s'est manifesté à France Télécom, ont pour moi été l'apprentissage par les cadres dirigeants de l'antipathie. C'est-à-dire de rompre le lien de sympathie, donc l'antipathie s'oppose à la sympathie, de rompre le lien d'un pâtir ensemble, sympathie c'est ce que ça signifie, pâtir, c'est-à-dire d'éprouver ensemble des affects, des émotions, et l'apprentissage du management moderne, notamment à France Télécom et à La Poste, que j'ai étudié également, par l'intermédiaire de stages, de séminaires de management, consiste à valoriser et à apprendre l'antipathie, à apprendre techniquement à ne plus ressentir d'émotion lorsqu'on harcèle quelqu'un, lorsqu'on lui dit qu'il est inminable, qu'il ne vaut plus rien, et même apprendre à ressentir cet acte qui est pour la socialisation ordinaire un acte relativement choquant et immoral, apprendre à le considérer comme un acte grand, un acte respectable, un acte admirable, qui mérite une rémunération élevée, puisque c'est un acte courageux qui va permettre le bien-être de tous. Donc c'est en cela que le management est une idéologie, parce que elle offre une justification à tous ceux qui le pratiquent, si on veut, de ne pas prendre en compte les conséquences de leur action.
Bonjour Jean-Marc Sylvestre.
Bonjour.
L'État a cédé hier près de 10% du capital de France Télécom, réduisant sa participation à moins de 50%.
France Inter.
Il espère ainsi réduire son désendettement. L'opération marque le retour des grandes privatisations.
Oui, alors c'est une opération importante à plus d'un titre. Hein, d'abord par son ampleur.
De septembre 2004.
236 millions d'actions, 10% du capital, vous le disiez. Ça représente près de 5 milliards d'euros, plus de 35 milliards de francs dans les caisses de l'État. C'est l'une des trois plus grande privatisation réalisée en France. Je crois que parmi les privatisations importantes, il n'y a guère que celle de la BNP et d'Elf Aquitaine qui avait eu des tailles plus grosses. Alors, France Télécom est devenue une entreprise comme les autres, enfin presque, avec l'engagement de respecter le statut des personnels qui ont choisi de rester adossés à celui du service public. Les nouveaux engagés, les nouveaux personnels, eux, auront des contrats de droit privé, ce qui veut dire au passage qu'ils auront aussi droit aux formules d'épargne d'entreprise, de stock option également. Ceci étant, on s'aperçoit qu'on aura quand même mis 8 ans à privatiser France Télécom. L'entreprise est aujourd'hui l'une des plus belles du monde dans le secteur. Ce secteur est très concurrentiel, mais le consommateur en a quand même beaucoup profité. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur le mobile et sur la DSL. Ça prouve que la France peut quand même se réformer, se moderniser. C'est très long. On vit une époque formidable. Faut être patient.
Vous appelez pour supprimer un contrat.
J'ai essayé d'attenter à mes jours et malheureusement, comme les personnes, et j'ai fait donc un stage en clinique psychiatrique pendant quelques mois. À l'époque, j'étais chargé de communication donc de notre département. Et donc, au moment de ces privatisations et des changements de direction déjà et des premières restructurations qui ont suivi, on m'a évincé, mais alors du jour au lendemain, ça s'est passé le vendredi pour le lundi, hein, très clairement. Ça, c'était en 92-93. Et du jour au lendemain, donc, on m'a signifié que je devais partir, sans le moindre ménagement, bien sûr. Donc on me mute d'office. C'était un standard, justement, où je répondais à des plusieurs centaines d'appels, si ce n'est presque un millier d'appels quotidiens. Donc oui, ça fait un effet assez épouvantable, quoi, parce qu'on est donc rétrogradé humainement, on est rétrogradé enfin à tous les niveaux, quoi. On n'est plus reconnu dans sa fonction. Tout le monde est au courant, sauf vous. Et du jour au lendemain, vous retrouvez, vous n'êtes plus rien, quoi. Vous êtes un paria, quoi. Et vous n'avez rien demandé, quoi. En 6 mois, tout s'écroule autour de moi, quoi. Ma femme me quitte. Bon, heureusement, nous avions un enfant. J'ai pu avoir la garde conjointe de cet enfant, heureusement, parce que vraiment tout s'est effondré définitivement. On n'est plus rien, vraiment plus rien. Bon, je suis pas quelqu'un de carriériste, hein, je l'ai jamais été, mais bon, je pense que j'avais des compétences naturelles qu'on a exploitées, quoi. Et on n'est plus rien du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de se foutre en l'air, quoi. Et on a vraiment l'impression d'être une merde, excusez-moi. Hein. Et puis on vous évite, quoi. Donc c'est ça le plus rien aussi. On vous évite, tout le monde est gêné. Mais en même temps, les gens ont peur de ce que ça leur arrive également. Donc tout le monde fait l'autruche. Et donc vous devenez un pestiféré, un paria du jour au lendemain, quoi. On ne peut plus aller au boulot. Moi, j'y allais vraiment à reculons. On ne tient pas, on est souvent malade. On est malade physiquement, on a des angoisses, on a mal partout, on a mal au ventre, on a mal partout. Il n'y a aucune issue, quoi. Et donc, on le sait. On le sait au fond de nous-mêmes que jamais on n'en sortira. On a des angoisses sans arrêt, en mots de... on a l'impression qu'on est cardiaque, enfin... On s'invente une autre histoire, on s'invente une vie. Moi, je m'inventais une vie de rêve. Je m'inventais une vie de rêve aussi chez moi, parce que je me retrouvais tout seul ou avec ma fille, avec quelqu'un que je retrouverais. Enfin, je m'inventais une vie d'animateur de colo de vacances, enfin, des choses comme ça, quoi. Ça peut vous paraître dérisoire, mais... Je n'ai pas tenu, je suis en longue maladie depuis presque 5 ans maintenant. Hein. Leur but était, depuis le départ, hein, pour parallèlement, donc cette privatisation s'est accompagnée d'un cortège d'arrivées de nouveaux de cadres un peu partout, justifiés ou pas. Hein. Donc une masse salariale importante, bien sûr, donc il faut se débarrasser des exécutants que nous étions, et à plus forte raison des fonctionnaires qui sont quelque part les derniers garants d'une certaine indépendance. Hein, et puis les actionnaires, en plus derrière, n'aiment pas que des fonctionnaires travaillent dans une boîte privatisée. Donc c'est aussi simple que ça, hein, c'est aussi abrupt que cela, donc il faut s'en débarrasser. Et ce qui attend malheureusement nos collègues de la Poste, là, je le dis fermement, parce que ça sera exactement, ça se passera de la même manière, nous le savons.
caissière n'aime pas ses vieux enfants. Pas si vieux pourtant. Vous devez partir, Maxime, c'est ainsi. C'est la loi, elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Je suis trop vieux pour rester son enfant. D'autres vont venir, plus alertes, plus capables. Je dois céder ma place. Vous étiez un très bon élément, c'est ce qu'elle a dit. Il vous reste de belles années devant vous. Des années. Les bronches rongées par le plastique cramé, je respire mal. Pourquoi partir? Tant qu'à faire, quitte à étouffer. Toute ma vie est ici, rien connu d'autre. Depuis l'âge de 14 ans, rien connu d'autre. Ça m'allait très bien comme ça. Très bien peut-être pas, mais ça m'allait. Même les bronches bouffées par la dioxine. Alors tant qu'à faire, pourquoi partir, quitte à crever? Ne vous regretterons. Elle a dit ça à la mère, qu'elle me regretterait. Mais ne le pensez pas. Je ne le prends pas contre moi. La mère n'aime pas les vieux enfants. J'ai passé l'âge. C'est ce que ça voulait dire. La mère nourricière ne veut pas de ses vieux enfants. Pas si vieux pourtant. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ça sert à rien de revenir, Maxime. Je l'entends souvent me dire ça. Quand je me pointe le matin, je reste debout devant l'entrée. Je sais pas ce qui m'a amené là, mais je suis là. Rentrez chez vous, Maxime, c'est fini pour vous. Son amabilité doucereuse finit toujours plus ou moins par se draper dans un tissu rêche. C'est fini pour vous, de quoi avez-vous l'air? Je lis ça aussi dans les yeux des autres, lorsqu'ils arrivent à 7h, qu'ils me trouvent là. Tu t'es levé? Tu profites même pas? Mais profiter de quoi? Alors je reste là. Profiter de quoi?
On vit une époque formidable, disait à l'époque Jean-Marc Sylvestre, en précisant bien que ça montre que la France peut se moderniser. Eh bien oui, la France s'est modernisée en fabriquant énormément de maillons faibles. On se demande d'ailleurs où sont les maillons forts. Ah, peut-être les élites, nos élites françaises. Le regard de Gilles Darrenoux.
À France Télécom, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est une sorte de très très grande soumission des cadres dirigeants. On a la crème de l'élite française, on a des ingénieurs de Polytechnique, de Centrale, des Télécommunications, etc., qui s'en remettent à une approche de l'humain que leur apportent finalement ces cabinets américains, mais avec lesquels il doit y avoir quand même une sorte de compatibilité intellectuelle pour que ça fonctionne, et qui l'appliquent avec le zèle le plus incroyable pour produire ce qu'on sait aujourd'hui à France Télécom. C'est-à-dire qu'on a des super ingénieurs sur des grands corps. On les a à France Télécom techniquement, mais on les a aussi, hélas, dans les plus hauts niveaux de l'État, c'est-à-dire les énarques, en fait, ont finalement le même rapport aux travailleurs, aux salariés, aux gens qui sont en dessous d'eux dans la hiérarchie, dans la pyramide. Un rapport qui est finalement un rapport de condescendance et parfois de mépris, comme le disait hier Noël Burgi dans l'émission. Un rapport de mépris, c'est-à-dire, ce sont de grands enfants, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. On va les moderniser, on va les sortir de l'archaïsme. Malgré eux, ils sont attachés à leurs petits privilèges, à leurs petites routines. On va un peu les secouer pour enfin pouvoir moderniser la France, là, en toute bonne conscience, puisque le management produit le dispositif idéologique qui justifie le fait de moderniser en disant que c'est bon, on travaille par objectif, on va être évalué personnellement. Donc les quatre dirigeants également, on leur donne des objectifs dans leur unité, on leur dit voilà, vous devez réussir à faire partir, mettons, 15 personnes de votre unité, débrouillez-vous comme vous le voulez, vous aurez une promotion si vous parvenez à vous libérer, à alléger le France Télécom de 15 personnes qui iront ailleurs. Peu importe les moyens employés, on ne veut pas le savoir. Voilà. Donc je pense que ce qui est très très important à travailler à présent, c'est de savoir comment les dirigeants, les cadres, réussissent à entrer dans ce qu'en sociologie on appelle un ethos, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de se comporter, un ethos qui les coupe tellement du fait de pouvoir vivre autre chose avec autrui, les capacités de vivre en sympathie, parce que c'est la guerre, on appelle ça, ou c'est des milieux de requins, voilà. On fait pas confiance même à son meilleur ami, à son meilleur collègue, on ne fait pas confiance, on peut lui planter un poignard dans le dos, et cette chose-là, qui considère que c'est une grandeur qui doit être valorisée, qui doit être rémunérée à un niveau très très élevé, que d'être un requin qui est capable de n'éprouver aucune empathie, aucune sympathie avec qui que ce soit. Le manager qui arrive à trancher dans le vif est présenté, quand on lit la presse économique, on voit le champ lexical qui est utilisé, et le champ lexical est souvent un champ lexical de l'héroïsme viril. Ce sont des meneurs d'hommes, des gens qui tranchent dans le vif, qui font pas de cadeaux, et c'est toujours vu sous un angle positif, qui est ce que trouvent finalement comme compensation les personnes qui appliquent ces dispositifs complètement insensés du management qui produisent l'anéantissement de tant et tant de personnes.
On a de plus en plus de clients qui nous appellent pour résilier, pour raison d'éthique. Depuis une semaine, on dirait que le nombre a pratiquement doublé. Et nos conseillers sur les plateaux sont aussi interpellés donc sur ce qui se passe et ne savent pas quelle réponse apporter aux clients. Le client dit par exemple, je vous en demande pas plus parce que sinon vous allez vous suicider. Donc ils sont un petit peu gênés par les commentaires des clients et souhaiteraient avoir un guide en tout cas de comportement à adopter.
Oui, tiens, j'ai entendu ta question, on va regarder ça et on va vous passer un mail dès demain.
Louis-Pierre Vénès, 14 septembre 2009.
Moi, a priori comme ça à chaud, mais je veux valider, j'aurais tendance, un client m'appellerait pour me dire ça. J'aurais tendance à lui dire, écoutez, d'abord, d'après ce que nous savons, il n'y a pas d'augmentation véritable du nombre de suicides dans France Télécom, et nous avons depuis plusieurs mois pris des mesures que nous amplifions en ce moment pour faire face à ces drames qui nous touchent et qui sont inacceptables en tant que tels. Point, je dirais rien d'autre. Mais je vais voir pour qu'on essaie de trouver une phrase et que vous ayez cette phrase à votre disposition.
Voilà, c'est un extrait qui a été diffusé sur Internet par le magazine Capital, un extrait d'un entretien entre Louis-Pierre Vénès, numéro 2 de France Télécom, et des collaborateurs perdus face à ces demandes de résiliation pour des raisons éthiques, d'une part, et d'autre part, face à des clients qui disent « je ne vous en demande pas plus, sinon vous allez vous suicider ». Voilà, ça donne une petite idée du climat et aussi de l'indépendance et de la hiérarchie militaire et de tous ces rouages absolument militaires, plus que militaires d'ailleurs, dans cette entreprise. On va retrouver Frédéric Lordon, après l'anthropologue, voilà l'économiste. Frédéric Lordon, vous connaissez si vous écoutez La Basse, j'y suis, et qui le 23 septembre dernier nous donnait son regard et son analyse sur France Télécom.
Vous appelez pour...
Frédéric Lordon, la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec La Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème de la crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle pour faire simple un capitalisme de basse pression salariale. Et ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale. La contrainte faite aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyée dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de La Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets nuisances de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même. n'est-ce pas? Le patron qui est plus du tout le seul maître à bord après Dieu, hein, dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça, et puis il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que c'est contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais. Or, le patron ne veut qu'une chose, il veut persévérer dans son être patronal. Parce que c'est toute sa vie. Je veux dire, l'ivresse de conduire une grande entreprise mondialisée, le salaire à millions, les stocks options, les retraites chapeaux, c'est son existence même de patron, c'est ce qui fait sa joie d'individu. Alors, je veux dire, il ne se laissera pas déposséder de ça sans rien faire. Et c'est là que je dis que le patron est ce que j'appelle le maillon faible paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il est le plus vulnérable, le plus sensible à l'injonction actionnariale, puisque c'est lui qui la prend en pleine poire, hein, au tout premier degré. Mais d'un autre côté, il est aussi celui qui conserve le pouvoir dans l'entreprise, et notamment le pouvoir de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs au travers duquel passe sa persévérance dans l'être patronal. Et donc, l'injonction indéfinie de productivité, qui sera destinée à être servie à l'actionnaire sous la forme de la rentabilité financière, hein, cette injonction descend en cascade tous les échelons de l'entreprise sans la moindre perte en ligne. Et donc je dis qu'on a là une structure tout à fait générale, rassemblée dans l'injonction suivante, qui est « tu performes ou tu sautes ». Et on retrouve ça absolument à toutes les échelles. On retrouve ça dans les rapports actionnaire-manager, dans les rapports donneur d'ordre sous-traitant, et évidemment dans les rapports entre supérieurs et subordonnés au sein de l'entreprise. Et ceci à tous les niveaux.
Sachant que les subordonnés sont actionnaires, en l'occurrence, très souvent chez France Télécom.
Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est toute l'arnaque de l'actionnariat salarié qui procède de la recette du pâté d'alouette. C'est-à-dire une alouette d'actionnariat pour un cheval de salariat. Bien sûr, les salariés rattrapent quelques pouillèmes sur leur plus-value en bourse, mais enfin, ils savent quand même de quoi est faite essentiellement leur existence. Elle est faite du revenu salarial que leur procure leur travail, et surtout, elle est faite qualitativement des conditions de vie professionnelle qu'ils trouvent dans leurs emplois. Et c'est précisément ça qui est en question. Puisque cette structure dont je parle, elle procède du mécanisme central de l'implication maximale des individus par mise en danger de leurs intérêts vitaux. Genre, encore une fois, c'est ça vraiment la chose. On pense qu'on a là le magnifique aiguillon de la concurrence. La vérité, c'est que c'est un poison violent. D'abord parce que la plupart du temps, l'excès de concurrence fait faire n'importe quoi aux gens, et que surtout, ça le leur fait faire avec la plus extrême violence. C'est pas difficile, et il faut pas s'en étonner. Lorsque les individus sont le dos au mur, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, éventuellement de la façon la plus désordonnée qui soit, pour en sortir. Et c'est une terrible violence qui déshumanise les gens. Et une violence d'ailleurs qu'ils vivent assez souvent dans l'ambivalence, puisqu'ils en sont à la fois victimes et bourreaux. Cette violence, ils la subissent et ils l'agissent. Bon, alors il n'y a que ceux qui sont en bout de course, en butée hiérarchique. Ce qui ne veut pas forcément dire que les ouvriers, je veux dire un ingénieur de projet par exemple, ou un cadre technico-commercial, qui n'a personne sous ses ordres, lui il est ce que j'appelle en bout de course hiérarchique, et il n'en est pas moins cadre. Bon, les gens qui n'ont personne en dessous d'eux, à qui passer cette violence-là ? Eh bien, ils la prennent tout pour eux. Et puis, à la fin, dans certains cas, ils se jettent par la fenêtre ou ils se foutent un couteau dans le ventre. Alors, c'est ça qui est dramatique. Je veux dire, c'est que l'intensité de cette double contrainte absolument toxique, hein, de la rentabilité actionnariale et de la concurrence répand partout dans le tissu économique une épouvantable violence qui s'empare de littéralement tout le monde. Donc il faut redéployer toute cette chaîne qui va de l'extrémité actionnariale jusqu'à l'autre extrémité salariale, et il faut la voir bien sous les yeux dans une vision synoptique pour pouvoir ensuite ressaisir, comme par un court-circuit, le lien qui mène de l'actionnaire au salarié suicidé.
Merci à tous, merci à Frédéric Lordon, Gilda Renoux, Lionel Dervin et ses collègues. C'était un reportage d'Antoine Chao, Pascal Yeloué Dilatébi. Je rappelle Orange Stressé, d'Yvan Duroy, le livre de Frédéric Lordon, Une crise de trop chez Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Rémi Quincet et Pierrick Monsigny, Coyen Guyenne et Raphaël Moutère dont vous réalisez cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.